France Inter. Le journal de 13h avec vous, Sébastien Cabrita dos Santos. Bonjour Sébastien.
Bonjour. La France enquête de toutes les économies possibles pour le futur budget, mais de l'argent qui semble s'envoler par les fenêtres. Focus sur les koum-koum, ces montages financiers qui embarrassent le gouvernement. Décryptage dans un instant. Il devait voir le chef de l'État, il sera finalement reçu par le Premier ministre. Changement d'agenda sans préavis pour Bruno Retailleau qui se met à dos la Macronie. Les stigmates d'un conflit de 12 jours. On est dans les gravats de la région de Tel Aviv en Israël, un mois après la fin de la guerre avec l'Iran. Ce conflit latent qui se réveille aussi en Asie. Échange de tirs, de roquettes ce matin entre la Thaïlande et le Cambodge. Il y a des victimes. Donald Trump qui plaide pour une intelligence artificielle sans aucune barrière. Plan inédit et massif présenté par la Maison Blanche. L'indigestion en France à la loi Duplon. Des centaines de chefs de cuisine signent une tribune et puis c'est l'étape de montagne par excellence, le Tour de France à l'assaut des Alpes cet après-midi avec trois montées hors catégorie dont le terrifiant col de la Lauze. Il n'y a pas de petites économies quand on cherche 44 milliards d'euros pour le budget de l'année prochaine. Le Premier ministre appelle à un effort commun de tous les Français, toutes les entreprises, alors que certains s'interrogent sur le bien fondé de montages financiers. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Et tout spécialement sur ces fameux koum-koum.
Ouais, on parle ici d'une sorte de passe-passe bancaire dont bénéficient les actionnaires étrangers, détenteurs de titres de grandes entreprises françaises. Un mécanisme qui leur permet pour certains d'échapper à l'impôt sur leurs dividendes avec parfois la complicité des banques. Les services de Bercy en sont conscients. Au premier rang, le ministre des Finances, Éric Lombard.
Cette fraude sur les koum-koum fait l'objet aujourd'hui de procédures de redressement auprès de 5 établissements de la place pour un montant de 4,5 milliards d'euros.
4,5 milliards que l'État compte bien récupérer. Précision importante, hein, alors que plusieurs sénateurs avaient accusé ces dernières semaines le ministre de vouloir affaiblir la lutte contre cette fraude. Résultat, Bercy, par souci de clarification, va pour ça retirer un texte d'application qui prêtait à confusion.
Cette décision que nous avons prise ensemble, qu'est-ce qu'elle marque ? Elle marque notre souci commun de lutter contre la fraude, contre toutes les fraudes.
Une position saluée ce matin par le sénateur LR Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat.
Bien évidemment, je ne me fais pas d'illusions. Certains continueront de vouloir essayer de contourner la réglementation.
Mais clarifier les choses était nécessaire, surtout dans la période.
Parce que c'est d'abord une question de justice et d'équité et qu'il ne faut pas laisser de brèche ni de porte ouverte à la fraude des puissances et de ceux qui ont l'argent.
Au total, Bercy dit avoir récupéré l'an dernier 10 milliards d'euros sur la fraude fiscale et les moyens de l'administration, annonce le ministre, seront encore renforcés cette année.
Maxime Debs, service Écho de France Inter. Un accord avec Washington sur les droits de douane à portée de main. C'est l'Union européenne qui s'en félicite après un coup de pression ce matin. Le feu vert donné par les Européens pour d'éventuelles représailles à hauteur de 93 milliards d'euros si les États-Unis devaient, malgré les négociations en cours, imposer des surtaxes à 30% sur les biens européens à partir de la semaine prochaine. La justice rouvre ses investigations sur le suicide de l'ex-femme de Bertrand Cantat, Christina Radi. La mère des deux enfants de l'ancien chanteur, leader de Noir Désir, avait été retrouvée morte à son domicile en 2010. Bertrand Cantat, condamné 6 ans plus tôt pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant. Les secours n'ont rien pu faire pour le réanimer en arrivant sur place. Un homme est mort la nuit dernière à Marseille, retrouvé très grièvement blessé. D'une balle dans la tête, dans le coffre d'une voiture, cité Fontvert, quartier Nord, des habitants ont donné l'alerte alors que plusieurs personnes tentaient d'incendier le véhicule, méthode qui évoque le narco-banditisme. La division de la criminalité organisée est en charge de l'enquête. Changement de programme de dernière minute pour le président des Républicains. Bruno Retailleau devait rencontrer le chef de l'État Emmanuel Macron ce soir, mais ses déclarations récentes contre le macronisme dans le journal Valeurs Actuelles en ont fait sursauter plus d'un. Dans le camp présidentiel, le macronisme n'est pas un mouvement politique et s'achèvera avec Emmanuel Macron, a notamment dit le ministre de l'Intérieur. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Et il apprend donc que son entretien prévu ce soir avec le président est annulé.
Oui, et ce report du rendez-vous élyséen, Bruno Retailleau l'a appris par la presse ce matin. Pas vraiment un signe de grande chaleur, vous en conviendrez, entre le président et son ministre de l'Intérieur. D'après nos informations d'ailleurs, un Emmanuel Macron agacé a fait passer hier soir le message à François Bayrou. Recadrer un ministre, ce n'est pas mon job, c'est le tien. D'où ce rendez-vous non plus à l'Élysée, mais à Matignon, prévu ce soir 20h, une fois que François Bayrou sera rentré d'un déplacement ici à Angers. Officiellement, l'ordre du jour de cet entretien, ce sont les dossiers chauds portés par Bruno Retailleau, l'Algérie, les OQTF, la lutte contre les points de deal. Mais en plus, le patron des Républicains aura bien droit à un rappel des règles gouvernementales. La liberté de parole nécessite respect et mesure pour pouvoir vivre ensemble, glisse ce matin l'entourage du Premier ministre. Est-ce que pour autant, le point de rupture et la démission de Bruno Retailleau sont proches? Le Vendéen n'y voit, je cite, « pas de raison », vient-il de répéter. Et en effet, ce n'est l'intérêt de personne, ni de Bruno Retailleau qui a trop besoin de son ministère pour faire entendre ses idées en vue de 2027, ni d'Emmanuel Macron qui a trop besoin de la droite pour faire tenir tant bien que mal sa si relative majorité.
Julien Nenny, service politique de France Inter, avec Mickaël Simon. Aux moyens techniques, les mortiers d'artifice sont des armes utilisées par des barbares, par la France des salauds qui visent les forces de l'ordre. Déclaration ce matin du ministre de l'Intérieur lors d'une visite dans un commissariat du 20e arrondissement de Paris. Il présente le plan de lutte contre les mortiers d'artifice. Elle n'est pas la bienvenue, la CGT Spectacle, hostile à la visite de Rachida Dati aujourd'hui à Avignon à l'occasion du festival. Il lui reproche notamment, depuis son arrivée au ministère, sa politique d'austérité qui détruise, selon eux, la culture. La ministre de la Culture, par ailleurs, devenue infréquentable, selon le syndicat, après son renvoi en correctionnel pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. Le très lent retour à une vie normale, un mois maintenant après la fin de la guerre entre Israël et l'Iran. 12 jours de conflit ouvert au total. Entre 600 et 1000 personnes sont mortes côté iranien, 28 côté israélien, dont 9 à Bat Yam, dans la périphérie de Tel Aviv, où Alice Moreno, le traumatisme ne passe pas.
De la tour d'habitation, haute de plusieurs dizaines d'étages, il ne reste plus qu'un amoncellement de gravats. Une pelleteuse déblaye les tonnes de parpaings et de ferrailles. Afik, un employé de la municipalité de Bat Yam, nous donne accès à la zone sinistrée. Dans un petit bâtiment qui jouxte la tour détruite, débris de verre jonchent le sol.
Je connais la famille, tout le monde a été blessé, c'était vraiment dramatique.
Plus de 2000 habitants du quartier ont dû être évacués selon lui. L'un d'entre eux est de retour sur les lieux de la frappe. Il se remémore la nuit de l'attaque.
Ma femme était au salon et toutes les persiennes sont tombées sur elle. Moi, j'étais dans la chambre, la déflagration m'a réveillée et les murs se sont fissurés. La maison est dévastée, il ne nous reste plus rien, c'est une perte totale. Nous attendons d'être indemnisés et de pouvoir louer un appartement.
En attendant, comme des centaines de sinistrés, ils sont logés dans un hôtel de Tel Aviv. David est en train d'installer de nouvelles fenêtres à son appartement.
Le peuple d'Israël vivra. Israël veut la paix, mais pas avec les Arabes qui veulent tuer tous les Israéliens.
La municipalité de Bat Yam estime que la remise en état du quartier pourrait durer 1 à 2 ans. Tel Aviv, Alice Moreno, France Inter.
Le crash d'un avion de ligne dans la région reculée de l'Amour, en Russie, régulièrement endeuillé par des catastrophes aériennes. Le fuselage de l'appareil a été retrouvé ce matin en flammes. Il y avait 49 personnes à bord, pas de signe de survivants depuis le survol en hélicoptère. Les secours arrivent sur place. Les deux armées s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier. Tirs d'artillerie, frappes et roquettes en Asie. Combat d'une intensité rare ce matin entre la Thaïlande et le Cambodge. Le ministère de la Santé à Bangkok déplore la mort de 11 personnes. Ce sont des affrontements inédits, Juliette Chénion, depuis 15 ans dans la région.
Oui, ce conflit n'a rien de nouveau. La Thaïlande et le Cambodge se disputent en particulier plusieurs temples le long d'une frontière de plus de 800 km, frontière dont le tracé a été défini durant l'Indochine française. Les deux États ne sont pas d'accord non plus sur la voie diplomatique à emprunter pour régler le différend. Des affrontements militaires éclatent donc régulièrement depuis des dizaines d'années. Il y a 2 mois, c'est la mort d'un soldat cambodgien qui a ravivé les tensions. Les deux pays se sont accusés mutuellement d'avoir ouvert le feu. Ils ont ensuite pris des mesures de représailles ces dernières semaines. Côté Cambodge, un embargo sur l'importation de produits thaïlandais. Côté Thaïlande, une fermeture et un contrôle renforcé des frontières terrestres. Le conflit semblait depuis s'enliser jusqu'à la semaine dernière avec l'explosion de mines qui ont blessé 5 soldats thaïlandais. Le Cambodge a nié toute implication. Les deux pays avaient aussi hier hier rappelé leurs ambassadeurs respectifs avant l'escalade militaire, donc ce matin, du jamais vu depuis 2011. À l'époque, plusieurs jours de combat avaient fait au moins 15 morts et des dizaines de milliers de déplacés des deux côtés.
Juliette Chénion à Bangkok pour France Inter. Home sweet home, Donald Trump du voyage en Écosse aujourd'hui sur la terre natale de sa mère pour inaugurer son troisième cours de golf dans le pays. Bol d'air frais pour le président américain dans la foulée d'une conférence très incisive aux États-Unis qui pourrait changer beaucoup de choses au sujet de l'intelligence artificielle. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
La Maison-Blanche dévoile son grand plan d'action, 90 mesures pour développer une IA à une sauce purement américaine.
Et ne lui parlez pas des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Donald Trump veut lever les contraintes, abattre les garde-fous, supprimer les règles qui, selon lui, freinent le développement de l'IA. Le président américain compte d'ailleurs empêcher les États fédérés, comme la Californie ou le Texas, de légiférer sur les dérives possibles de cet outil. Il impose également aux administrations d'utiliser des algorithmes, je cite, « sans biais idéologique », nouvel épisode de la chasse au wokisme et aux politiques de diversité. Côté infrastructure, le plan Trump prévoit la construction sur le sol américain de nouveaux centres de données, de nouvelles centrales électriques pour cette technologie gourmande en énergie. Les autorisations et les permis seront délivrés en urgence. L'objectif, selon la Maison-Blanche, c'est d'imposer l'IA américaine comme une référence mondiale, de gagner la course, ce sont les mots de Donald Trump, face à la Chine qui propose des modèles d'intelligence artificielle moins chers et toujours plus performants.
Frédéric Saïs de la rédaction internationale de Radio France. On fait ce métier pour nourrir, pas pour empoisonner. Les professionnels de la cuisine se font à leur tour entendre dans le très inflammable débat autour de la loi Duplon. 400 chefs, propriétaires de restaurants, responsables de cantines signent ce matin une tribune dans le journal Le Monde, très inquiet à l'image de la chef Chloé Charles après l'adoption du texte agricole qui réautorise l'utilisation d'un pesticide.
Quand on fait à manger à des gens tous les jours, on est forcément impacté par ce genre de décision du gouvernement. Ne serait-ce que par rapport aux ingrédients qu'on utilise, nous. Alors après, là, il y a beaucoup de grands chefs qui signent cette tribune. Moi, je reste consciente que tout le monde ne peut pas se nourrir exclusivement de micro-fermes en bio et qu'on est quand même obligé d'avoir des agriculteurs qui produisent en plus grand et à des prix plus abordables pour la majorité de la population. Après, il n'y a pas de raison que cette nourriture-là qui est produite, elle soit moins bonne pour la santé que celle avec laquelle nous, on travaille. Parce que c'est, enfin, je veux dire, l'alimentation, ça reste quand même le premier médicament. Donc c'est vrai que moi, ça, c'est un truc qui me tient à cœur et on est quand même quelques-uns à être plutôt médiatisés dans cette liste. On ne prend pas souvent la parole, donc quand on la prend, c'est que c'est particulièrement important.
La chef Chloé Charles, révélée par l'émission télé Top Chef, elle répondait à Sofia Berada. Le Var, les Bouches-du-Rhône, toujours en proie au feu de forêt. C'est orange aujourd'hui, risque élevé selon Météo France. Alerte jaune, modérée, mais vigilance de mise quand même un peu plus à l'est, dans les Alpes-Maritimes, où on s'en remet en ce moment à des ânes de Provence pour se prémunir des départs de flammes. Maïwenn, Le Corollet, Richard, ils sont une soixantaine et ils broutent tout sur leur passage.
Perché au cœur du poumon vert de Cannes à la Croix des Gardes, Nicolas Turiaf et Manon Bleuze de l'association Anesterel entament leur tournée pour prendre soin de leurs ânes.
On les a ramenés en mars et ils vont être là jusqu'en décembre.
Dans ce parc, les ânes empêchent les mimosas de repousser, une plante invasive mais aussi inflammable.
Ils mangent les petites repousses que vous voyez et du fait qu'ils fassent que marcher, ça abîme les racines des mimosas. La repousse derrière est beaucoup plus longue que si vous passiez une machine.
Direction la maison d'une vieille dame à quelques rues de là, 2 hectares de jardin où le pire a été évité.
Il y a 2 ans, il y a eu un feu où heureusement on avait les ânes qui avaient commencé à entretenir le jardin et ça a permis aux pompiers de contenir ce feu.
Pourquoi l'âne pour débroussailler et pas un autre animal? Manon nous explique.
L'âne de Provence mange la végétation qu'on trouve dans notre secteur. Et au niveau des clôtures, c'est quand même plus facile de parquer un âne qu'une chèvre. Et j'ai beaucoup plus confiance au pied de l'âne sur des terrains un peu abrupts que le cheval.
Débroussailler est une obligation légale et en période estivale, il n'y a pas d'autre solution que les animaux.
Au mois de juillet, on n'a pas le droit d'utiliser des machines parce que si on touche une pierre, on met le feu. Nous, avec les ânes, on peut travailler au mois de juillet, au mois d'août. On n'a pas de restrictions.
Les deux passionnés rappellent également que la présence des ânes crée un vrai lien social entre les habitants et les passants, eux, sont ravis de les croiser.
Un reportage, Maïwenn, Le Corollet, Richard. Ici, Azur, ex-France Bleu, un sapeur-pompier suspendu, bientôt jugé pour pyromanie Saint-Denis en Indre-et-Loire, soupçonné d'avoir déclenché 7 départs de feu au cours des 3 derniers mois, dont celui de la forêt de Brisé, qui a ravagé 6 hectares il y a une dizaine de jours. S'il y a bien une étape pour lâcher les dernières forces dans la bataille, c'est très probablement celle-ci. 18e jour de course sur le Tour de France. En haute montagne, 171 km à parcourir entre Vif en Isère et Courchevel en Savoie. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour.
En direct de la Moto Radio France, ça monte à peine hein, pour le moment, mais ça va très très vite se gâter pour le peloton.
Ah, ça débute même à l'instant, on va dire, les réjouissances de cette énorme journée, effectivement, puisque les coureurs sont au pied très précisément de la première ascension de la journée. Quelle ascension ! Déjà, le col du Glandon, plus de 21 km à plus de 5% de moyenne, classé hors catégorie, comme les deux suivantes, la Madeleine qui enchaînera, et puis surtout l'arrivée finale vers le désormais mythique col de la Lauze sur les hauteurs de Courchevel. À 2300 mètres d'altitude. Ce sera la première fois que les coureurs dépasseront les 2000 mètres aujourd'hui, qu'ils atteindront le toit de ce Tour de France 2025. Pour l'instant, une tentative d'échappée qui s'est formée après le sprint intermédiaire remporté par le maillot vert, Jonathan Milan. Les sprinteurs, désormais, vous l'aurez compris, vont souffrir et l'échappée commence à se former avec notamment Tim Wellens, coéquipier de Tadej Pogacar, son compatriote Wout van Aert, un groupe en contre dans lequel on trouve un seul Français, Matteo Verchet, mais tout ça, toutes ces cartes vont être rebattues forcément dans la montagne jusqu'à cette arrivée finale que vise le maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar, puisque c'est au sommet du col de la Lauze, à Courchevel en tout cas, qu'il avait définitivement perdu le Tour 2023 face à son grand rival Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, le Tour 2025 lui est presque promis avec déjà plus de 4 minutes d'avance au général et il veut cette victoire de prestige tout à l'heure au sommet du col de la Lauze.
Une grosse étape de montagne. Au goût de revanche, Nicolas Perronnet sur la route du Tour pour Inter. Le premier Français, Kevin Vauclin, est sixième au général. Le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Encore deux départements en vigilance orange aujourd'hui.
Oui, les averses seront encore régulières et parfois orageuses entre l'est des Hauts-de-France, le bassin parisien, le centre-val de Loire, le massif central, la Bourgogne et les Ardennes. Mais c'est surtout sur l'Aisne et la Seine-et-Marne qu'elles seront les plus durables et qu'elles apporteront aussi des cumuls encore importants d'ici ce soir. C'est pourquoi ces deux départements ont été maintenus en vigilance orange pour des risques de fortes pluies et d'inondations. L'après-midi sera aussi émaillé d'averses le long des Pyrénées. L'instabilité sera moins marquée sur le reste du pays, même si des averses pourront encore circuler, notamment entre le Poitou-Charentes et le bassin aquitain ou encore entre la Lorraine, l'Alsace et les Alpes. Les éclaircies auront souvent du mal à percer, mais le ciel va tout de même avoir tendance à se dégager sur l'ouest en fin de journée. En revanche, de nouvelles pluies vont aborder le Pas-de-Calais en deuxième partie d'après-midi pour se diriger vers la Normandie ce soir. Et puis les régions méditerranéennes sont quand même mieux loties, avec un après-midi globalement ensoleillé malgré un ciel voilé et une ambiance ventée par le mistral. À la tramontane. Les températures maximales restent, elles, sous les valeurs de saison. Seulement 21 degrés à Bourges et au Havre cet après-midi. 23 degrés pour Paris, Besançon et Reims. 24 degrés à Lille, Rennes et à Nantes. 25 degrés pour Lyon et Toulouse. 29 à Marseille et Montpellier. Jusqu'à 31 degrés du côté d'Ajaccio.
Merci beaucoup. Sébastien Léas, Météo France.